Veuillez vous asseoir. Si vous avez le texte sous les yeux, c'est toujours utile. Nous allons aussi projeter le texte, mais on va aussi voir d'autres versets en dehors de Hébreux 1 à 4. Et je vois, Muriel, si tu veux bien, juste là, sur le baptisé, il y a quelques feuilles pour les dauphins. Donc, si vous êtes dans cette tranche d'âge 9 à 12, ça va vous aider, chers amis, à vous suivre. Il y en a un là-bas, et un ou deux ici, je pense, Muriel. Nelly, pas là. Elle, peut-être elle refuse.
Pas les ados.
Hein?
Pas les ados.
Ah, si les ados le souhaitent. Hein? Mais pas obligé, chers amis, si ça vous aide à suivre. Merci, Muriel. Bon, savez-vous que cet été, j'ai fait un magnifique exploit avec ma famille. J'ai traversé le pont suspendu piétonnier le plus long du monde. Je suis très fier de moi parce que c'était un défi. C'est long de 494 mètres et c'est la plus longue passerelle suspendue dans le monde. Ça se trouve juste en dessous de Zermatt en Suisse, une station de ski, et ça traverse toute une vallée. Et nous, on devait démarrer. J'avais une photo, mais malheureusement, je suis trompé de fichier que j'ai donné à Kuhn et donc je ne peux pas vous le montrer maintenant. Mais nous, on a démarré ce trajet dans le brouillard, d'ailleurs. Et donc, c'est comme si on marchait dans le vide pendant un moment. Et c'était assez terrifiant pour certains de la famille. Mais je passe sur qui, parce qu'on serait gênés. Mais une fois dessus, comme vous pouvez imaginer, parce que c'est de 100, à peu près 100 mètres de haut par rapport à la Terre, et c'est presque 500 mètres de long, donc c'est énorme comme truc. Et on est juste sur une seule rangée. Et donc quand on croisait quelqu'un qui allait dans l'autre sens, c'est là où ça faisait peur, parce que tout le monde faisait « Oh là !» Mais bon, une fois dessus, la grande tentation, comme vous pouvez imaginer tout au début, c'était juste de regarder en arrière et dire « Oh, là-bas, c'est la terre ferme. Okay? Là, je vais retrouver ce que je connais. Okay? Et n'est-ce pas, suis-je pas un peu fou d'avoir entrepris ce parcours de 500 mètres? Qu'est-ce que je fais là? Okay? » C'était un peu ça, ce que moi j'ai ressenti. Donc voilà, vous savez, au moins une personne qui avait du mal avec ça, de la famille. Sur le pont, regardant en arrière, je peux commencer à avoir des doutes par rapport à là où je suis. Et ceux qui se sont lancés dans le parcours qui est la foi chrétienne pourraient faire preuve du même genre de doute, si vous voulez. Ils peuvent se poser la question, est-ce que l'effort de la foi chrétienne, ses exigences au quotidien, et il y en a, ces souffrances, nous venons de terminer un livre qui parle de la souffrance dans la foi chrétienne. Est-ce que ces choses valent la peine pour moi? Et cette tendance était déjà courante à l'époque des premiers chrétiens. Cela a poussé l'auteur de l'Épître aux Hébreux d'écrire son livre aux Hébreux. Et il est concerné que ces chrétiens qui ont démarré dans la foi chrétienne, semblent avoir été auparavant des croyants juifs. Ce n'est pas certain cela, mais on pense que c'est faux, probable. Voilà pourquoi en partie ça s'appelle l'Épître aux Hébreux. Okay? Et il est concerné que ces personnes n'abandonnent pas la foi en Christ. Alors juste pour nous essayer de nous sensibiliser par rapport à cela. Prenez la Bible si vous en avez. Je vais voir quelques versets en dehors de nos versets qui nous démontrent cela. Chapitre 2, verset 1, nous dit ceci. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset 3, comment du chapitre 2, toujours. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Okay? Et ensuite, chapitre 12, verset 25. Chapitre 12, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Donc vous voyez, il y a d'autres versets, d'autres avertissements que je n'ai pas mentionnés qui se trouvent au sein de ce livre. Mais l'auteur, et on ne sait pas de qui il s'agit, il écrit sa lettre comme un message donc, d'exhortation. Chapitre 13, verset 22, il parle d'une parole d'exhortation. C'est ça ce que c'est l'Épître aux Hébreux. Et dans ces premiers versets, dans les quatre premiers versets, il se lance directement en s'appuyant sur la raison principale pour ne pas abandonner cette nouvelle foi chrétienne. Et donc, nous allons parcourir ces versets de près pour que le Seigneur nous encourage, ici ce matin, à Bruxelles, à notre époque, de ne pas penser d'aller en arrière, de retrouver ce que j'avais quitté avant d'être chrétien. Et évidemment, il se peut que certains parmi nous ce matin ne se disent pas forcément eux-mêmes sur le parcours de la foi chrétienne. Il se peut que ça soit le cas pour vous. Et donc, ces chrétiens vont fonctionner comme un appel à vous de ce que vous pouvez partager, vous aussi, si vous tournez à Jésus-Christ dans la foi. Et c'est bien ça notre prière, bien entendu, pour chacun qui réfléchit par rapport à la foi, mais qui n'est pas encore un disciple de Christ. Et donc ces versets contiennent des affirmations exceptionnelles au sujet de Jésus-Christ. Je dirais ici, c'est l'un des trois endroits phares qui met en avant la gloire de Jésus-Christ. Nous pouvons ajouter Jean chapitre 1, que j'ai lu tout au début, et aussi une partie de Colossiens chapitre 1. Mais à part ces deux passages, Hébreux 1, 1 à 4, met en avant la gloire de Jésus d'une manière tout à fait exceptionnelle. Et ils ont pour but, ces versets donc, de nous persuader que le pont, si vous voulez, qui est la foi chrétienne, mérite notre confiance. Nous propose quelque chose de fabuleux si nous nous trouvons sur ce pont. Et non pas quelque chose de farfelu, quelque chose où on a un peu perdu la raison et nous devons retomber donc par la suite à ce que nous connaissions auparavant. Donc si vous hésitez ce matin par rapport à votre foi chrétienne, par rapport à Jésus-Christ, alors l'auteur nous dit, écoutez bien ces versets. Donc l'affirmation principale, vous allez voir le schéma que j'ai mis sur le dos de votre feuillet, l'affirmation principale c'est quoi? Le Dieu qui parle l'a fait de manière définitive, car il a parlé à travers son Fils. Le Dieu qui parle l'a fait de manière définitive, car il a parlé à travers son Fils. C'est ça ce que les deux premiers versets affirment, n'est-ce pas? Après avoir verset 1, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ce que l'auteur fait ici, c'est de souligner le changement dans la façon par laquelle Dieu avait parlé avant Jésus et sa façon de parler aujourd'hui. Un changement super important à comprendre. Il part, notons bien, du principe que Dieu est un Dieu qui parle. Il a parlé, ça oui, et il parle encore, dit-il. Autrefois, Dieu, il a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Il avait parlé, dit l'auteur, à nos pères. C'est-à-dire nos ancêtres de l'Ancien Testament. Comment il avait parlé? Par les prophètes. Oui, dès le début donc de la révélation biblique, Dieu est un Dieu qui parle. Est-ce que vous savez cela? L'Ancien Testament est le récit de ce que Dieu a dit autrefois. Donc, loin des chrétiens, loin de cette Église, de dédaigner l'Ancien Testament, Dieu a parlé. C'est la parole de Dieu. Nous prenons l'Ancien Testament au sérieux parce que cela révèle le Dieu qui parle. Il a parlé à nos pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, mais ensuite aussi à Moïse, à Josué, à David, aux grands prophètes, aux petits prophètes. Dieu a parlé à plusieurs reprises. Il a même parlé par la bouche d'une ânesse à un certain moment. De plusieurs manières aussi, n'est-ce pas? Dans le sens où sa parole ne se limitait pas au narratif des événements. Mais dans l'Ancien Testament, il y a aussi des hymnes, des proverbes, de la poésie, des paraboles, des livres de sagesse, de l'apocalyptique, dans une partie du livre de Daniel. Donc Dieu a parlé de plusieurs manières, oui. Tout l'Ancien Testament, donc, c'est le récit de ce que Dieu a dit à nos pères. Ce n'est pas donc à prendre à la légère, en disant que ce n'est pas la parole de Dieu pour nous. Nous sommes plutôt du Nouveau Testament. Non, Dieu a parlé. Mais ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament n'était pas encore son dernier mot. Cela était encore à venir pour les croyants de l'Ancien Testament. Et donc le verset 1 bascule vers ce qui était encore à venir. Dieu, dit-il, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dans ces derniers temps, c'est-à-dire les temps dans lesquels Dieu accomplit ce qu'il avait promis auparavant. Ce temps démarre grâce à la venue de Jésus-Christ et de son œuvre. Ils sont les derniers jours, car ce sont les jours d'accomplissement de ce que l'Ancien Testament avait promis. Nous sommes alors dans les derniers jours en cours aujourd'hui. Vous savez, les théologiens, parfois, ils parlent avec un long mot de l'eschatologie. Les choses qui arrivent à la fin, c'est ça ce que ça signifie. Dans les derniers jours. Car le mot employé ici pour dernier, c'est le mot eschaton, d'où vient le mot eschatologie. C'est la période d'accomplissement eschatologique des choses qui arrivent à la fin. Et c'est maintenant, dès l'œuvre de Jésus, nous nous trouvons dans les derniers temps, nous y sommes encore. La fin est donc inaugurée par la personne et par l'œuvre de Jésus-Christ. Il a déclenché, lui, cette dernière période d'accomplissement. Donc, tout comme il a parlé à nos pères autrefois, dans ces derniers temps, il nous a parlé, comment? Par le Fils, par Jésus. C'est définitif, vous voyez cela. Ce moyen de parler éclipse de plusieurs reprises et de plusieurs manières d'autrefois. Il n'y a plus de possibilité que Dieu dira quelque chose de nouveau. Comme si Jésus n'est qu'une étape sur une voie de révélation. Il y a encore de nouvelles révélations à venir. Ceci est donc un texte important pour contrer ce qu'affirment, entre autres, les musulmans. Ils affirment, quant à eux, que la révélation de Dieu continuait après Jésus, jusqu'à Mohammed. Jésus est un prophète, mais Mohammed ajoute à la révélation. Non, non. Jésus, c'est le dernier mot de la part de Dieu. D'autres sectes chrétiennes nient ceci. Mary Baker Eddy, elle aussi, croyait entre la clé pour comprendre la science de Christ, Et donc, il y a toute une église, l'église de science, qui s'est fondée sur cette nouvelle révélation. Joseph Smith a reçu de Jésus, apparemment, une révélation nouvelle qui le permettait, selon lui, de fonder, alors écoutons bien, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, ce que nous appelons les mormons, bien sûr. Mais quelle ironie avec ce titre, n'est-ce pas? C'est exactement parce que nous sommes, selon ces versets, à la suite du ministère de Jésus dans les derniers jours, que nous devons exclure toute révélation supplémentaire. Dieu a parlé définitivement en Jésus-Christ. Nous devons exclure toute nouvelle révélation. Car il n'y a rien de supérieur, rien de supplémentaire à ce que Dieu a dit en Christ. Que cela soit donc un soi-disant prophète qui révèle de nouvelles choses, que ce soit simplement un chrétien individuel de nos jours qui cherche un mot en dehors de la Bible pour lui. Une nouvelle chose que Dieu a à me dire, qui me encourage en dehors de ce que Dieu me dit dans la Bible. Non, c'est de minimiser, d'ignorer, de faire fi à ce que Dieu a définitivement dit une fois pour toutes en son Fils. Cela nous suffit, dit l'auteur des Hébreux. Il ne peut pas avoir mieux que cela. Et pour nous démontrer cela, l'auteur ensuite fait l'éloge du Fils. Et donc voilà pourquoi j'ai dit, sachant comprendre le Fils. Il continue verset 2, que Dieu l'a établi, héritier de toutes choses. Cela évoque le langage employé pour le Fils de David, en parler le psaume 2. Là, dans le psaume, le Fils, le roi établi par Dieu, aura les nations pour héritage. Mais ici, il est question de toutes choses qui lui appartiennent. Cela parle donc de l'autorité du Fils, l'étendue de son règne. Et il reviendra là-dessus à la fin du verset 3. Mais avant cela, il met l'accent d'abord sur sa personne et ensuite sur son œuvre. D'abord donc sa personne, la personne du Fils. Car la suite du verset 2 nous dit que par lui, il a aussi créé l'univers. Oui, le Fils est l'agent par lequel le Père avait créé tout l'univers. Cela parle donc d'un personnage qui dépasse de loin les pères et les prophètes de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Le Fils se trouve dans une catégorie tout autre par rapport à ceux qui l'ont précédé. Il avait créé l'univers même. Il n'est guère étonnant qu'un tel ait les nations pour héritage. Il les avait créées, après tout. Le verset 3 explicite ce qui était implicite au verset 2. Le Fils est le reflet de sa gloire. D'autres traductions disent qu'il est le rayonnement de sa gloire. Ce qui met l'accent sur le fait que Jésus manifeste, rend visible la gloire de Dieu lui-même. Si vous voulez, c'est un peu comme le soleil. Je ne suis pas super fort en physique, mais je pense que le rayonnement solaire est l'ensemble du rayonnement émis par le soleil, la source de toute lumière, de toute vie sur Terre. La lumière naturelle que nous voyons, en partie là-bas, ici c'est moins naturel, témoigne de la source de cette lumière, le soleil. Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. La source de son rayonnement, c'est l'essence même de Dieu, sa gloire. Son être, qui il est. Ce que l'expression suivante confirme, n'est-ce pas? Il est l'empreinte de sa personne, c'est-à-dire l'expression de son être. Le Fils représente la nature même, le caractère même de Dieu. Si vous voulez, on peut prendre un euro ou un livre sterling, des pièces, ça marche plus pour des pièces britanniques, parce qu'on est toujours un peu indépendant et on ne voulait pas être dans l'euro, vous comprenez cela. Et maintenant, on a voté pour Brexit, mais je passe. Et monsieur les pièces, ça marche. Parce que comme on appartient rien qu'au Royaume-Uni, il y a encore, je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai trouvé, juste chez moi ce matin, deux pièces. Ici, c'est la reine d'Angleterre. Elle y est toujours sur toutes les pièces de monnaie britanniques. On prend une pièce de monnaie et qu'est-ce qu'on voit? L'empreinte de la reine Elisabeth. Ce que j'ai compris, c'est, je n'avais pas compris avant cela, mais tu peux prendre une pièce de 50 cents d'euros et vous trouverez le visage là, hein, l'empreinte du roi Philippe. Ça n'avait pas ça. Donc, apparemment, pour tous les pays, 50 cents, vous pouvez tourner et vous trouverez des autres présidents et ainsi de suite des différents pays. Okay. Donc, ce que nous avons en Jésus-Christ, nous avons l'empreinte de Dieu. Jésus, le Fils, révèle parfaitement l'essence même de Dieu. Le Fils, nous voyons, n'est pas simplement donc envoyé par Dieu, mais il est Dieu dans sa personne même. Il est la révélation suprême de Dieu, car en lui-même, il est Dieu. Oui, Jésus est, comme disait un apologète chrétien d'il y a une trentaine d'années, bien plus qu'un charpentier. Okay? Oui, cela est une vérité extraordinaire. Je suis d'accord avec vous. Les chrétiens ne proclament pas de telles choses par des besoins psychologiques de faire de Jésus quelqu'un qui n'était pas. Ils sont arrivés à confesser de telles choses de quelqu'un qui, au premier abord, était le fils d'un charpentier, mais parce que le mystère et la résurrection de Jésus rendaient le témoignage par rapport à Jésus indéniable en ce qui concerne sa divinité. Après avoir établi la personne du Fils, alors nous regardons son œuvre. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Vous êtes conscient de ça? C'est-à-dire le monde dit naturel ne tourne pas naturellement. Tout seul. D'après ce que je comprends de la physique, pas grand-chose, j'avais déjà avoué, notre univers contient 4 interactions élémentaires qui sont responsables de tous les phénomènes physiques observés dans l'univers. Okay, voilà un peu de physique. Chacune se manifestant par une force dite force fondamentale. Interaction nucléaire forte, interaction électromagnétique, interaction nucléaire faible et la gravitation. Sans ces 4 forces, on n'existe pas. Mais Dieu, à travers Jésus-Christ, permet qu'il en soit ainsi. Maintenant, encore maintenant, juste maintenant, il soutient toute chose par sa parole puissante. Prenez votre main, si vous voulez, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé. Prenez votre main. Ok, personne ne veut le faire, mais c'est bon. Prenez votre main, ok. Mettez votre main ici, à côté de votre bouche. Ouvrez votre bouche. Ouvrez votre bouche. Et là, ce que vous avez ressenti, le souffle sur votre main, ça vient de Jésus-Christ. Ça. Si Jésus ne l'avait pas permetté, vous seriez déjà mort. Okay? La vie, tout se tient grâce à Christ. C'est dingue ça, mais c'est vrai. Mais c'est même pas le summum ça de son œuvre. Le point culminant, c'est ce qu'il dit après. Ce que Jésus a accompli à travers sa mort sur la croix. Il a accompli la purification des péchés. La suite de ce livre développera ce thème en profondeur. Car ce qui était impossible sous l'ancien régime, un pardon définitif des péchés, Christ a accompli. Car Christ, notre grand prêtre, a pu entrer dans la présence de Dieu. Car lui-même, il est Dieu. Et son sacrifice de lui-même, celui qui est le Fils. Lorsque Dieu en Christ nous réconcilie avec lui-même, alors son sacrifice, c'est à donner une purification parfaite. Il est le grand prêtre dont nous avons besoin. le grand prêtre définitif pour tous ceux qui se confient en lui. Et cet accent donc définitif se trouve dans la phrase suivante. Son œuvre de rédemption achevée, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Cela évoque le psaume 110. Assieds-toi, le psaume 110 dit, à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et cela s'est fait. Étant donné que le travail de purification est achevé, le Fils est assis à la droite de la majesté divine. Quand moi je termine un moment de travail physique, je m'assieds sur le divan, okay, épuisé normalement. Enfin, c'est fini. Okay. C'est ça ce qu'on fait lorsqu'on est super fatigué, lorsqu'on termine quelque chose. Ici, ce n'est pas que le Fils est épuisé, comprenez bien, mais c'est qu'il a terminé son œuvre. Exalté par son ascension, il règne à la droite du Père, qui évoque son pouvoir, son autorité, son positionnement privilégié. Nous revenons donc à l'autorité du Fils. Il a la souveraineté de Dieu sur le monde. Voilà donc un portrait condensé, n'est-ce pas, du Fils. Le mot pour « majesté divine », vous savez, c'est la racine de notre mot « méga », comme « méga church » ou « méga concert » ou que sais-je. Ça signifie ici « majestueux ». Jésus, si vous voulez, il est méga. Et c'est vrai, il est majestueux. Et donc, si ces versets nous dépassent en quelque sorte, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Si vous n'êtes pas convaincu que ces choses sont vraies à propos de Jésus, il faut commencer avec des évangiles, des récits de la vie de Jésus, qui met en lumière ce qui est Jésus. Rappelons-nous que ce portrait a pour but de mettre en relief la supériorité de la révélation du Fils. Si autrefois, verset 1, il a parlé par les prophètes dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils. C'est grandiose cela. Maintenant, nous comprenons de qui il s'agit, ce Fils. Comment pouvons-nous, chapitre 2, verset 3, négliger un si grand salut? Pourquoi penser à revenir en arrière, étant donné que ce que nous avons en Christ, impensable pour l'auteur? Et cela, je pense, reste de l'application pour nous. Car les tentations de revenir en arrière vers une religion qui me permet d'être encore respecté dans cette vie sans être gêné, elles existent encore, ces tentations-là. Que là soit la tentation de lâcher certains éléments de l'enseignement de Jésus qui gênent, afin de revenir vers une foi plus raisonnable, qui retient peut-être certains propos de Jésus, sans pour autant prendre à la lettre ce que Jésus dit dans certains domaines qui gênent, tels que la sexualité, le péché, le jugement, la colère, et ainsi de suite. Mais je pense aussi à ceux qui, comme moi, se sont convertis d'un arrière-plan catholique. Eux qui peuvent de temps en temps ressentir la force des propos de l'auteur des Hébreux, revenir vers une foi plus visible, plus tangible, là où il y a plus de tradition, plus de respect que cette foi porte dans la société, là où il y a tout un système cercé d'autels, encore avec des prêtres, avec des sacrifices, et ainsi de suite. Non, non, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Jésus seul est meilleur, supérieur à tout ce système sacerdotal qui précédait. Restez avec Jésus. Sa supériorité, verset 4, est telle que la parole Dieu, que Dieu nous adresse par son Fils doit nous suffire. Pensez à abandonner la foi en Christ, ou mélanger la foi en Christ, ou ajouter à la foi en Christ de nouvelles révélations. C'est absurde lorsque nous captons à quel point Jésus est supérieur. La révélation de Dieu que nous avons reçue en Christ. C'est son dernier mot. Moi, j'essaie de temps en temps de donner mon dernier mot sur un sujet à un autre dans la famille. Mais vous savez, même si je dis à ma famille que 90% du temps, j'ai raison, okay, de temps en temps, quand même, il m'arrive de me tromper. Okay. Mon dernier mot doit être supplémenté, et il est souvent supplémenté par d'autres dans la famille, par un autre dernier mot. Parce que mes connaissances ne sont pas parfaites. C'est frustrant, cela pour moi. D'autres doivent venir me trouver pour m'expliquer que non, humilie-toi, Steve, tu t'es trompé ici. Il fallait écouter un peu plus. Mais le dernier mot de Dieu reste son dernier mot. Car ce mot vient du Fils. Il est devenu, verset 4, d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Les anges, nous entendrons plus concernant les anges la semaine prochaine. Mais il suffit de mentionner le rôle important des anges dans l'Ancien Testament, lors des moments clés de la révélation biblique. La loi de Moïse, selon certains textes, avait été promulguée par des anges. Mais ce moment culminant de la révélation de Dieu n'est pas venu par l'intermédiaire des anges, mais par le Fils. Il a hérité un nom plus excellent que le leur. Il est nommé le Fils. Abraham, on se souvient de lui, il est devenu Abraham, père d'une multitude de nations. Mais Jésus est devenu le Fils. Non pas que le Fils n'existait pas avant Jésus, le Fils éternel. On sait que cela n'est pas le cas dans ce que nous venons de voir. Mais dans le sens que son règne en tant que Fils est devenu, en tant que Fils qui est devenu homme et qui ensuite est monté au ciel pour régner, ce règne-là n'a commencé que après sa résurrection. Jésus donc est le Fils qui règne pour toujours, déclaré par sa résurrection. Jésus, le Fils, est le dernier mot de Dieu. Soyons donc satisfaits. Chers amis, avec lui, il n'y a rien de meilleur. Continuons sur le parcours de la foi chrétienne. Peu importe nos hésitations, ce parcours est digne de notre confiance. Ces versets sont placés ici, tout au début de ce livre, car ils nous poussent directement à contempler et à louer le Fils. Mais vous voyez qu'il ne commence pas sa lettre ici avec des salutations. Moi, Paul, je salue X, grâce et paix au nom de... Non, il ne mentionne pas tout cela. Il commence directement avec cette déclaration de qui est Jésus-Christ pour que nous puissions louer le Fils. Nous puissions continuer dans le Fils. Que le Seigneur nous permette de faire cela encore aujourd'hui. Moi, je vous invite à la prière, chers amis. Merci Seigneur de nous avoir parlé dans ces derniers temps par le Fils. Permets-nous individuellement et aussi collectivement d'être concernés uniquement par cette révélation glorieuse de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Non seulement tu nous as parlé, mais aussi tu as agi en Christ pour que nous puissions recevoir la purification de nos péchés. Merci que Jésus règne aujourd'hui. Il est assis à la droite du Père. Et nous te prions donc de glorifier Jésus-Christ parmi nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.